France Culture.
Le journal est signé Mathieu Laurent. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le collectif Les Morts de la Rue a dénombré 912 personnes décédées en France en 2024. Nouveau record effroyable, dit le collectif Précision. Dans un instant d'Azaïs Perronin, le Rassemblement National bénéficie du soutien des partis LR et Horizon pour faire adopter par les députés une résolution qui dénonce l'accord franco-algérien de 1968, résolution non contraignante mais signifiante quant à la convergence des droites. L'extrême droite britannique cette fois et les partis conservateurs exploitent l'expulsion en Éthiopie du demandeur d'asile auteur d'agressions sexuelles à l'origine des émeutes anti-migrants de l'été, emprisonné puis relâché par erreur. Correspondance de Londres de Gaël Joly. Avec Pierre Benazet, nous évoquerons les craintes de l'Union européenne au lendemain d'un accord Chine-États-Unis sur les terres rares. Explication de Pierre Benazet, donc à Bruxelles, à la fin de cette édition. Maire, pourquoi faire ? Rendez-vous hebdomadaire consacré aux élections municipales de mars prochain. Numéro consacré ce jeudi aux vieux partis traditionnels face à la dépolitisation du personnel municipal. Reportage Adrien Toffolet, Stéphane Robert. Agir face à la précarité qui tue, c'est l'appel renouvelé chaque année par le collectif Les Morts de la Rue quand il s'agit de dénombrer des victimes d'une indifférence partagée. 912 personnes sont décédées en 2024. Un recensement qui conduit une fois encore à nommer les urgences, protéger les plus vulnérables et réformer les politiques publiques pour le droit au logement. Bonsoir Azaïs Perronin.
Bonsoir.
Azaïs, commençons avec vous par définir autant que faire se peut les profils de ces morts de la rue.
Ce sont des personnes jeunes, elles avaient 47 ans en moyenne, soit 32 ans de moins que l'espérance de vie moyenne en France. Ce sont majoritairement des hommes, mais aussi de plus en plus de femmes et d'enfants. C'est là encore un triste record de l'étude, comme l'explique Bérangère Grisoni, présidente du collectif Les Morts de la Rue.
La proportion des décès des femmes est plus importante. Au début de l'étude, elle se situait à 6%. Pour 2024, elle est de 13%. Le nombre de mineurs est plus important que d'habitude. Et ce qui est fortement inquiétant, c'est la tranche également des jeunes majeurs des 15-25 ans, où ce sont pour la plupart des décès qui ont lieu sur la voie publique.
Le temps passé à la rue sans hébergement stable est lui aussi particulièrement long. Plus de 70% de ces personnes vivaient dehors depuis plus de 5 ans.
Une situation, Zaïs, qui témoigne de la crise du logement grandissante en France, alerte le collectif Les Morts de la Rue.
Oui, c'est la principale cause pointée par le collectif, mais aussi par d'autres acteurs comme l'UNICEF. 4% des décès concernent les moins de 15 ans. La part des enfants présents dans la rue illustre la faillite des pouvoirs publics, selon Julie Vignon, chargée de plaidoyer à UNICEF France.
Quand on constate que 503 enfants de moins de 3 ans sont restés sans solution d'hébergement en août dernier, ça vient bien illustrer une saturation du dispositif d'hébergement, puisque parmi les plus vulnérables ne sont plus garantis d'avoir un toit sur la tête. Et finalement, les dispositifs d'hébergement sont le réceptacle de tout un tas de dysfonctionnements dans d'autres politiques publiques, notamment dans les politiques de l'accès au logement, mais plus largement de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
L'UNICEF appelle à une politique structurelle du logement qui dépasse la logique budgétaire annuelle. Une politique inscrite dans le temps long avec des objectifs pluriannuels de production de logements sociaux.
Merci à vous, Azaïs Perronin. Venons-en à présent sur cette proposition de résolution portée par le Rassemblement national et adoptée ce jeudi par les députés. Le texte dénonce l'accord franco-algérien de 1968, accord signé 6 ans après la fin de la guerre d'Algérie, qui offre aux Algériens des clauses spécifiques en matière de circulation, d'immigration et de séjour en France. Cette résolution, adoptée à une voix près, a bénéficié du soutien d'une partie des groupes LR et Horizon. Si ce texte n'est pas contraignant juridiquement, sa portée symbolique et politique est haute et le RN ne manque pas d'ailleurs de se montrer triomphant. Rosalie Lafarge a sollicité le professeur de droit public Christophe Boutin. Voici son commentaire. Si politiquement ce n'est pas un séisme, c'est tout de même une preuve supplémentaire que des lignes sont en train de bouger.
On ne peut pas parler ici d'un accord d'appareil complet et d'un ralliement. On ne peut pas parler, par exemple, comme on l'entend parfois, d'union des droites. Il y a ici, sur un point très particulier, des gens qui ont choisi de voter quand même, malgré tout, quelque chose qui avait été proposé par le RN. J'insiste cependant sur le fait que cette conviction n'a été manifestée que par la moitié des parlementaires Horizon et des parlementaires des Républicains. Tout autant, de l'autre côté, il y a des gens qui ont choisi de ne pas être présents et de ne pas voter contre. Par exemple, le fait que 30% seulement des parlementaires du groupe Ensemble aient été présents à la Chambre n'est sans doute pas anodin et a contribué, je dirais, à permettre au texte de passer avec, je le rappelle, une voix de majorité, au moins autant que l'apport des voix LR et Horizon. Donc, effectivement, les satanistes sont en train de bouger. C'était déjà assez clair, je crois, lorsque le président des Républicains, Bruno Retailleau, disait que le front républicain doit maintenant être un front destiné à se dresser contre la France insoumise de manière prioritaire. Il indiquait par là que l'opposition au RN n'était plus quelque chose de prioritaire. Donc, on sentait déjà que les lignes bougeaient. Et on les voit là bouger, mais encore une fois, avec une situation très favorable sur un point qui est particulièrement sensible, comme une sorte de conjonction des planètes favorables au Rassemblement national.
Christophe Boutin, professeur de droit public à l'Université de Caen avec Rosalie Lafarge. Il est 18h06. Vous écoutez le journal de France Culture, un fait qui a trait à l'accueil des migrants en Grande-Bretagne, mais le gouvernement sous pression. Il s'agit de l'expulsion du demandeur d'asile, auteur d'agressions sexuelles, à l'origine des émeutes anti-migrants de l'été. Le week-end dernier, l'homme qui purgeait sa peine a été relâché par erreur, puis de nouveau arrêté. Il a été finalement expulsé en Éthiopie, son pays d'origine, avec 500 livres en poche. Voilà qui offre à l'extrême droite, comme au Parti conservateur, une tribune anti-migrants. C'est une correspondance de Londres, de Gaëlle Joly.
Son visage fait la une de tous les journaux britanniques, car c'est son arrestation en juillet dernier qui a été le point de départ tout l'été d'une vague de manifestations anti-migrants devant les hôtels. Soupçonné d'agression sexuelle sur une adolescente de 14 ans et une femme à Epping, près de Londres, Adouche Kebatou, 38 ans, a été condamné en septembre dernier à un an de prison. Mais un mois plus tard, l'administration pénitentiaire le libère par erreur, avant que la police ne le retrouve dimanche dernier au terme d'une chasse à l'homme de 48 heures. Le gouvernement travailliste, déjà sous le feu des critiques, doit aujourd'hui faire face à une nouvelle polémique après avoir admis que pour qu'il consente à prendre place dans l'avion qu'il expulsait vers l'Éthiopie, près de 600 euros lui ont été versés. Une façon de faciliter son renvoi, a expliqué le porte-parole de Downing Street, parce qu'il avait menacé de perturber le vol. L'alternative aurait été plus lente, plus coûteuse pour le contribuable, s'est expliqué le ministre en charge de la sécurité des frontières devant les parlementaires. Les conservateurs dénoncent une honte absolue. Les populistes de Réforme UK ont qualifié ce paiement d'insulte de la plus haute importance.
Des milliers d'hommes en noir dans les rues de Jérusalem contre la conscription. Les deux partis ultra-orthodoxes, judaïsme unifié de la Torah et le chasse, réclament le rétablissement d'un arrangement qui exemptait du service militaire les étudiants des écoles talmudiques avant son invalidation par la Cour suprême. Provocation, imprécision, improvisation bancale, insondable digression, ambivalence sous-pesée. Il y a un peu de tout dans les discours de Donald Trump. Prenons cette phrase, prononcée après que Vladimir Poutine a dit avoir testé un missile de croisière nucléaire, pour finir d'ailleurs par récuser le terme « essai ». Donald Trump, je cite, « En raison des programmes d'essai menés par d'autres pays, j'ai demandé au ministère de la guerre de commencer à tester nos armes nucléaires sur un pied d'égalité ». Fin de citation. Bonsoir Éric Bigalam.
Bonsoir Mathieu.
Éric, qu'est-ce qu'un essai nucléaire ? Y a-t-il d'ailleurs un traité qui encadre ces pratiques ?
Oui, parfaitement. Depuis 1999, les pays qui l'ont signé et ratifié, pratiquement tous, sauf États-Unis, Chine, Israël, Égypte et Iran, qui ne l'ont pas ratifié, ainsi que l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord, qui ne l'ont même pas signé, tous les autres sont censés respecter le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, le TIS. En parlant d'essais, alors on parle bien là de faire détonner une bombe nucléaire dans l'atmosphère ou en sous-sol, pour en mesurer les effets. En pratique, depuis 1999, seule la Corée du Nord a encore procédé à de tels essais. Mais ça ne veut pas dire que les puissances nucléaires se sont interdites, ces essais, mais en simulation. En France, par exemple, le commissariat à l'énergie atomique a mis au point des calculateurs, un laser mégajoule hyperpuissant et des outils de radiographie pour mesurer en simulation les effets d'une explosion. Les États-Unis sont dotés des mêmes systèmes, ainsi probablement que les Russes ou les Chinois. Autant dire que pour eux, la reprise d'essais grandeur nature n'aurait pas beaucoup de sens. Mais à côté des essais de bombes, les pays qu'on dit dotés, c'est-à-dire dotés de l'arme nucléaire, n'ont absolument pas ralenti leurs programmes respectifs pour améliorer les vecteurs, missiles ou autres engins porteurs susceptibles de lancer et de faire détonner ces charges nucléaires sur un adversaire. Les sous-marins lanceurs d'engins français viennent ainsi de se voir dotés du missile M51.3, la troisième troisième version de l'engin avec une portée améliorée et armée d'ogives nucléaires TNO2, tête nucléaire océanique 2. C'est là aussi une version améliorée. Chaque sous-marin français pouvant emporter et lancer jusqu'à 160 ogives nucléaires. La Chine a testé ces dernières années avec succès un bombardement orbital. Américains, Russes, Chinois, Indiens ou Français testent aussi des planeurs hypervéloces et manœuvrants, des missiles hypersoniques, voire des drones torpilles nucléarisés, tels qu'annoncés hier par la Russie. Autant d'engins qui sont des armes à vocation nucléaire. Sur ce chapitre, la prolifération bat son plein.
Merci de vos explications, Eric Biegala. Peu après son départ de Corée du Sud, Donald Trump a annoncé un accord d'un an reconductible sur l'approvisionnement en terres rares, matériaux essentiels sur lesquels la Chine exerce un quasi-monopole et dont les restrictions imposées par Pékin sur ses livraisons avaient déclenché sa colère. L'Union européenne scrute et tente de comprendre les résultats de l'accord conclu à Busan. La grande question pour l'UE est de savoir si la période de grâce apparemment accordée aux États-Unis lui sera étendue. Ce n'est clair pour personne. Dans le cas contraire, ces industries ont de sérieux soucis à se faire car elles ont très peu de stocks de terres rares. Le dialogue européen avec Pékin doit être enclenché demain avec une visite à Bruxelles d'une délégation chinoise. Mais les Européens ne savent pas encore si cela suffira à dégager l'horizon immédiat. Bruxelles, Pierre Benazet.
Oui, parce que pour les Européens, le constat, il est clair depuis plusieurs années. La Chine, c'est 60%, voire plus, de l'extraction mondiale de terres rares. C'est surtout...
Oui, on vous écoute, Pierre.
Oui, je disais que pour les Européens, le constat est clair depuis des années. La Chine, c'est 60%, voire plus, de l'extraction mondiale de terres rares. C'est surtout 90% de la capacité mondiale de raffinage. Or, pour tous ces projets de développement, qu'il s'agisse d'énergie éolienne, de voitures électriques ou de drones militaires, ces terres rares sont indispensables et 95% de ces importations viennent de Chine. Les restrictions chinoises du 9 octobre sur 5 minerais, dont l'ytterbium, ont été un coup de massue parce que ces minerais, déjà disponibles en quantité limitée, viennent s'ajouter aux difficultés d'approvisionnement pour les autres terres rares, comme le coltan. L'Europe, elle a bien une loi sur l'approvisionnement en matériaux stratégiques, mais avec un horizon éloigné, par exemple 50% de capacité européenne de production sur les aimants permanents indispensables pour les moteurs électriques. Mais seulement d'ici 2030, des projets d'extraction et de raffinage ont été lancés cette année, mais ils prendront des années à tourner à plein. Or, certaines usines, par exemple en Allemagne, n'ont de stock de terres rares que pour une quinzaine de jours et pourraient se voir alors contraintes de cesser toute production. L'Europe est donc face à un mur. Elle est obligée de négocier avec la Chine pour au mieux éloigner ce mur et elle hésite à utiliser sa nouvelle arme anti-coercition qui permet pourtant de restreindre les exportations, d'interdire aux entreprises chinoises d'investir dans l'industrie européenne ou de soumissionner pour des marchés publics dans l'UE.
Merci à vous, Pierre Benazet, en direct de Bruxelles. C'est une première dans le secteur de l'industrie musicale. Une collaboration entre une grande maison de disques et une start-up de musique basée sur l'intelligence artificielle. Après des mois de bras de fer juridiques, Universal et Udio annoncent le lancement d'une plateforme de création par IA qui devrait voir le jour en 2026. Plateforme qui sera alimentée par une technologie formée, selon les deux entreprises, sur de la musique autorisée et sous licence. Flore Caron.
Est-ce un premier signe d'apaisement entre les géants du disque et le monde de l'intelligence artificielle? Pour rappel, il y a plus d'un an, Sony, Universal et Warner poursuivaient en justice Udio et Suno, deux start-up américaines de musique générée par IA. Les majors accusaient les deux sociétés d'avoir violé massivement les droits d'auteur, autrement dit d'utiliser les enregistrements des maisons de disques sans leur accord pour entraîner leurs intelligences artificielles. Alors, le lancement de cette nouvelle plateforme qui fonctionnera selon les deux entreprises à partir de musique autorisée et sous licence est peut-être la première pierre vers un encadrement juridique plus strict, encadrement que les ayants droit appellent de leur vœu depuis de longs mois. Mais la DAMI, la société qui défend les droits des artistes et des musiciens interprètes, regrette de ne pas avoir eu son mot à dire et Elisabeth Le Hot, sa directrice générale.
On peut considérer que cet accord montre une volonté de dialogue et montre une volonté de rémunérer les créateurs. Évidemment, dans ce sens-là, on peut considérer que ça va dans une bonne direction. Mais nous n'avons pas l'accord, nous n'avons pas été sollicités, les artistes, à notre connaissance, n'ont pas été sollicités. Donc on est vraiment dans l'expectative. Et il y a peut-être des artistes, et il y en a certains, c'est sûr, qui ne souhaitent pas que leur voix serve à entraîner l'IA.
Universal, mais aussi d'autres labels, ont aussi indiqué récemment leur volonté de développer des contenus IA responsables en passant un accord avec Spotify.
Flore Caron, Yannick Lahens, autrice haïtienne, lauréate du prix de l'Académie française pour les passagères de nuit sur les bateaux négriers aux éditions Sabine Vespizer. La journée de demain commence sous la grisaille sur le Val-de-Saône, temps nuageux, de la pluie sur un quart nord-ouest, le ciel voilé à l'avant du sud-ouest et du nord-est. Retour des entrées maritimes sur le golfe du Lion. Il est 18h15, ce journal a été préparé avec Brice Garcia, la technique Marie-Claire Oubamadi.